Vous écoutez, c'est pour ma pomme, le podcast qui parle des produits Apple et de leurs usages, mais pas que. Je suis David, bienvenue dans un nouvel épisode. Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Ça y est, les dates de la WWDC 2022 sont enfin tombées. La conférence développeur d'Apple se tiendra du 6 au 10 juin 2022 avec une keynote d'inauguration le 6 au soir à 19h comme tous les ans. Alors, ces dernières semaines, il y avait quand même pas mal de rumeurs comme quoi Apple pourrait faire revenir du public lors de sa conférence développeur. Ce n'est pas totalement le cas, il y aura quand même un petit peu de public, il y aura quelques développeurs, il y aura quelques étudiants qui seront sur place, mais pas les foules qu'on a connues juste avant la pandémie. Cependant, les développeurs et les étudiants qui seront sur place seront logés exactement à la même enseigne que nous, c'est-à-dire qu'ils vont voir la vidéo en fait. Ils n'auront pas droit à un show de Tim Cook sur scène comme ça pouvait l'être avant. En fait, ils seront sûrement dans une salle, dans un amphithéâtre ou je ne sais où à l'Apple Park. Et ils auront exactement la même vidéo que nous, on aura sur Apple.com, sur toutes les autres réseaux où vous pourrez voir la WWDC. Les dates sont peu ou prou similaire à l'année dernière. Petit rappel, l'année dernière, la WWDC s'était tenue du 7 au 11 juin 2021. Donc voilà, décalage d'un jour. Mais bon, peu ou prou, ça tombe exactement à la même date. Alors, qu'Apple ne fasse pas revenir du public, c'est un peu compréhensible, je pense. Ils ne veulent pas prendre de risques, ils préfèrent. La pandémie commence à remonter un peu, donc les cas, du moins aux États-Unis, commencent à remonter un peu, et en Europe aussi d'ailleurs. Donc voilà, ils ne veulent clairement pas prendre de risques à faire venir des foules énormes comme ça pouvait l'être il y a 3-4 ans. Voilà, ils préfèrent laisser la jouer safe et en soi, on peut pas vraiment leur en vouloir sur ce coup-là. Moi, j'ai toujours dans le passé adoré l'ambiance des WWDC avec le public. C'est vrai que d'entendre les foules à chaque fois qu'il y avait une grosse nouvelle, d'entendre les applaudissements de la foule dans la salle, c'était bien, l'ambiance était bonne, mais je dois bien avouer que leur façon de faire depuis 3 ans, ils ont quand même prouvé qu'ils étaient capables de faire des grosses conférences, de faire des productions qui étaient à la hauteur. Et on peut regarder les exemples qu'on a à côté. Là, ces dernières trois années qui viennent de passer, ces 3 années de pandémie, Apple n'a pas été le seul à faire des conférences entre guillemets enregistrées. Et quoi qu'il arrive, c'est quand même Apple qui avait le degré de production le plus élevé, le plus léché au niveau de ces conférences. Donc voilà. Même si j'adorais l'ambiance des WWDC à l'époque, avec le public, avec les réactions du public, en 3 ans, moi, je m'y suis quand même vraiment bien fait à ces conférences enregistrées, préparées. Au moins, on est sûr de pas avoir de temps mort. C'est des conférences qui sont extrêmement bien rythmées. Apple dit les choses qu'il a à lire. Après, il faut voir aussi le côté de leur, enfin de leur côté à eux, le fait de faire ça, ils sont pas sujets à des bugs, à des, enfin voilà, ils maîtrisent du bout en bout leur conférence, et c'est dans un sens, c'est pas plus mal, c'est compréhensible de leur part, et c'est vraiment pas plus mal. Alors bien sûr, comme d'habitude, comme tous les ans, je vous ferai un épisode complet du podcast dès le lendemain pour débriefer un peu la conférence, comme je l'ai fait l'année dernière, comme je l'ai fait l'année avant. Enfin voilà, pour débriefer tout ce qui aura été dit dans la conférence. Comme d'habitude aussi, si ça vous intéresse, si c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de suivre, si vous vous demandez comment vous pourriez regarder cette conférence WWDC, ben, il y a plusieurs façons de la regarder. Alors, soit apple.com, le plus facile d'aller sur le site d'Apple le 6 juin et vous aurez un lien vers la conférence. Soit la chaîne YouTube d'Apple, elle est retransmise, toutes les conférences d'Apple sont retransmises en direct sur la chaîne YouTube d'Apple. Ou soit la grande majorité des chaînes tech spécialisées, que ça soit française ou américaine ou tout autre pays. Mais il y a énormément, les soirs de keynote, il y a énormément, énormément de chaînes, de sites internet qui retransmettent la conférence, qui en font un live. Alors des fois, vous n'avez pas les images, des fois c'est juste quelqu'un qui va débriefer la conférence en direct. Mais la grande majorité du temps, vous avez quand même les images, donc. Voilà, pour suivre une conférence WWDC, comme toutes les autres conférences Apple, c'est vraiment pas difficile. Et le soir de la conférence, vous la trouverez, pour ainsi dire, à peu près partout. Alors, voilà pour les dates. Qu'est-ce qu'on peut attendre cette année de la WWDC 2022? Ben, comme tous les ans, c'est pas un secret, c'est comme ça tous les ans. On va avoir le lancement des nouveaux OS, alors iOS 16, iPadOS 16, macOS 13, watchOS 9 et tvOS 16. Ça, c'est les principaux OS, ceux qu'on connaît depuis très longtemps. Peut-être une annonce d'un nouvel OS. On sait que ça fait quand même 2-3 ans que ça traîne. On sait qu'on entend beaucoup de rumeurs parlant d'un OS dédié à la domotique qui s'appellerait HomeOS. Ça fait ouais, à peu près 2-3 ans qu'on en entend parler. Pourquoi pas le présenter cette année? Ça peut être aussi le bon moment pour présenter un pseudo OS complètement dédié à la VR. On sait qu'Apple aussi travaille énormément sur la VR et que c'est quelque chose qui va sortir dans les années qui viennent. Et il y aura un produit certainement en rapport avec ça. Donc voilà, la WWDC, le lancement des nouveaux OS, peut être aussi le bon moment pour présenter deux nouveaux OS pour que les développeurs puissent commencer à travailler dessus. Il faut savoir quand même qu'après la WWDC, tous les développeurs ont accès à tous les nouveaux OS en bêta pour pouvoir travailler dessus, commencer à travailler dessus pour un lancement à peu près vers le mois de septembre, octobre, du moins vers l'automne, avec les nouveaux iPhones et les nouveaux, enfin tous les nouveaux matériels. Mais principalement, c'est généralement les OS tombent en même temps que les nouveaux iPhones. Moi, ce que j'espère vraiment, comme tous les ans, je sais, je me répète, mais bon, ça devient récurrent. C'est des vœux que j'ai sur les OS d'Apple qui sont récurrents. Et bon, le jour où ils seront annoncés, je pense que j'en trouverai d'autres. Mais voilà, il y a quand même des petits points sur les OS, principalement sur iPadOS, que j'attends depuis des années et des années. Et tous les ans, j'espère les voir arriver à la WWDC. Alors, concernant iPadOS, comme je viens de vous le dire, alors un truc qu'il faut savoir aussi avant que je vous dise ce que j'attends, mais ce qu'il faut aussi, ce que j'ai remarqué du moins, c'est que on dirait qu'il y a un roulement quand même pas mal sur les OS. C'est-à-dire que une année, ils vont s'occuper vraiment d'un OS, nous annoncer énormément de nouveautés. Et puis l'année d'après, ça sera vraiment incrémental, il y aura très peu de choses. Et à ce niveau-là, j'ai remarqué que l'année dernière et même un peu l'année d'avant, sur iPadOS, il n'y avait vraiment, vraiment pas eu grand-chose. C'était vraiment très, très incrémental. C'était par petites touches. C'était de petites améliorations. Alors je me dis que pourquoi pas cette année annoncer vraiment, pas une grosse refonte d'iPadOS, mais vraiment de grosses, grosses nouveautés concernant iPadOS. Peut-être la gestion des fenêtres flottantes sur l'écran, que beaucoup attendent. Peut-être la gestion des écrans externes. Ça, j'arrête pas de vous le dire, mais c'est quelque chose que j'attends énormément, énormément depuis longtemps. Et puis peut-être plein d'autres choses, mais voilà. On pourrait clairement, clairement s'attendre à une. J'ai pas envie de dire refonte, parce que refonte, ça donnerait l'impression qu'ils vont changer carrément tout l'OS. L'OS d'iPadOS est vraiment, enfin l'utilisation d'iPadOS est vraiment pas mal. On touche presque le but. C'est vraiment des touches bien précises qu'il faudrait ajouter, des améliorations vraiment, vraiment bien ciblées. Et on pourrait, le fait de ne pas avoir eu de grosses améliorations ces dernières années, on pourrait voir arriver de grosses, grosses améliorations cette année. Donc voilà, c'est tout ce que j'attends moi pour iPadOS. Pour les autres OS, bah, je dois bien avouer que j'ai pas de grandes attentes. iOS, bah, si, toutes les nouveautés généralement qui arrivent sur iPadOS, elles sont peu ou prou retrouvées sur iOS ou l'inverse. Donc voilà, on sait que si de grosses annonces sont faites sur iPadOS, généralement ces grosses annonces se retrouveront par un moyen ou par un autre sur iOS. Concernant macOS 13, bah, moi, ayant un MacBook Air comme seul, enfin le seul ordinateur en fonction, enfin ce qui fonctionne et que j'utilise encore, c'est mon iPad, pardon, mon MacBook Air de 2011, non, de 2014, mon 11 pouces. Je me mélange un peu les pinceaux. Donc voilà, il est déjà pas passé au dernier OS, donc enfin, j'attends rien du tout de macOS 13, clairement, parce que je sais que cet ordinateur n'y passera pas. WatchOS 9, bah, pas grand-chose. Moi, je trouve que WatchOS est très utilisable. Enfin, j'ai pas de problème avec WatchOS, donc clairement, j'en attends pas grand-chose de plus cette année. tvOS, je pourrais, la chose que je pourrais réellement attendre de tvOS, c'est une réelle gestion de la domotique par rapport à tvOS, c'est-à-dire une vraie application home dans tvOS. Ça serait vraiment bien parce que la pseudo application qu'il y a dans le gestionnaire sur le côté, je trouve pas ça vraiment utilisable. Donc, ça serait vraiment bien qu'on ait une réelle application Home dans tvOS 16. Mais bon, voilà, c'est comme je vous le disais dès le départ, si Apple viendrait à annoncer un nouvel OS dédié à la domotique, c'est peut-être des petits points qu'on pourrait voir arriver sur chaque OS, une amélioration de l'application Home et pourquoi pas l'arrivée de l'application Home sur tvOS. Donc au niveau des OS, c'est à peu près tout ce qui sera, enfin c'est à peu près tout, c'est déjà pas mal, mais voilà ce qui sera annoncé à la WWDC. Je pense pas qu'on aura d'énormes surprises, mais quoique, on peut vraiment s'attendre à tout. Après, il y aura peut-être un lancement matériel. Moi, j'y crois réellement à un lancement de matériel. Alors, quand je dis un lancement, je pense clairement qu'une annonce, je ne vais pas dire que l'annonce, mais qu'une annonce sera faite concernant le Mac Pro à la WWDC. Alors, de quelle nature sera cette annonce? J'ai du mal à croire qu'ils vont annoncer, voici le nouveau Mac Pro, il est disponible à la précommande dans 10 jours et à la vente dans 15 jours. Si annonce du Mac Pro il y a, je pense que ça sera juste pour dire qu'ils ont bouclé le passage au processeur Apple Silicon en 2 ans. Donc l'annonce sera faite avant la fin des 2 ans. Mais je pense que comme le dernier Mac Pro, on aura une annonce, on aura les caractéristiques techniques de cette machine qui, à mon avis, vont être clairement énorme. D'après les dernières rumeurs là qui sont tombées ces tout derniers jours, ça a l'air vraiment d'être enfin la puce qui va la pseudo M1 Extreme qui devrait être dedans devrait être bah, vraiment exceptionnelle, encore plus forte que la M1 Ultra. Donc voilà, je pense qu'il y aura une annonce, mais ça sera juste une annonce de principe et que cette machine sortira possiblement en fin d'année, milieu de l'automne, mais je pense pas qu'on aura droit à un Mac Pro à la vente disponible directement après la conférence, enfin dans les jours, semaines après la conférence. Pour moi, c'est à peu près tout en termes de matériel, ce que je vois arriver à la WWDC. Alors, comme je le disais tout à l'heure, si Apple venait à annoncer un OS ou quelque chose par rapport à la VR, peut-être qu'on pourrait aussi avoir un teaser possiblement d'un produit qui ferait fonctionner cette VR, c'est-à-dire le casque, ce fameux casque dont on entend parler depuis plusieurs années. Mais voilà, c'est vraiment. Je pense que 6 produits annoncés à la WWDC, ça sera que des teasers de produits qui arriveront possiblement bien plus tard. Alors, dans l'année pour le Mac Pro, ça c'est quasiment sûr. Et je ne sais vraiment pas quand pour le casque de VR. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur la WWDC. De toute façon, on est à très peu de temps, il reste un peu moins de 2 mois avant d'arriver à la WWDC. Donc voilà, ça va aller vraiment vite. On va vite être mis au courant de ce qui va être annoncé. Donc voilà, et je pense clairement pas, comme ça a pu être dit ces derniers jours, qu'il y aura une conférence entre-temps. Là, je pense qu'ils ont beaucoup de choses à préparer pour la dub-dub, et ça sera la prochaine conférence. On n'aura rien d'autre avant. Alors, si annonce de produit, il peut clairement y avoir des annonces de produits entre-temps, mais si annonce de produit il y a, ça sera qu'un communiqué de presse et rien d'autre sur le site d'Apple. On n'aura clairement pas de conférence au mois de mai. Enfin, je pense clairement pas, moi. Après, ça peut être le cas, mais dans mon cas, moi, je ne pense clairement pas qu'on aura de conférence d'ici le 6 juin. Voilà, dans cet épisode, je voulais aussi vous parler d'un deuxième sujet, alors qui n'a pour le coup rien du tout à voir avec Apple. Et puis, c'est un sujet. Alors, sur ce coup-là, pour le coup, moi, j'arrive clairement après la bataille. Mais je viens de terminer un livre, là, il y a un ou 2 jours. Ce livre, c'est le livre Bad Blood de John Carreyrou sur l'affaire Theranos. Je pense que l'affaire Theranos, vous devez connaître. C'est sans aucun doute l'une des plus grosses affaires que la Silicon Valley ait connues ces dernières années, avec les affaires Cambridge Analytica et l'affaire WeWork. Mais voilà, c'est une énorme affaire que la Silicon Valley a connue ces dernières années. Pour petit rappel, si vous n'en avez jamais entendu parler de cette affaire, pour vous la pitcher très très rapidement, Elizabeth Holmes, la CEO de Theranos, était une jeune entrepreneuse au tout début des années 2000, qui a voulu révolutionner le monde de la prise de sang et de l'analyse sanguine. Et clairement, on ne peut pas dire que ça soit vraiment passé comme elle l'avait prévu dès le départ. Donc voilà, c'est une affaire extrêmement, extrêmement complexe. Et je trouve qu'on n'en a vraiment pas assez entendu parler en Europe. Et là, je viens de terminer le livre, Bad Blood. Je suis tombé dessus par hasard sur Audible l'autre fois. Et je l'ai téléchargé parce que bon, c'est un sujet qui m'intéresse. Et c'est vraiment un livre qui retrace point par point tout ce qui s'est passé depuis le départ dans cette affaire. Et je pense que c'est un si c'est un sujet qui peut vous intéresser, et si vous avez jamais rien lu sur cette affaire, si vous êtes juste cantonné à écouter ce qui se dit dans les médias, je pense que ça peut être un très très bon point d'entrée pour en savoir plus sur l'affaire Theranos, pour savoir tous les tenants et les aboutissants de l'affaire. Il faut le dire, qui a réellement secoué la Silicon Valley pendant quelques années. Et comme je vous le disais, on en a beaucoup moins entendu parler en Europe que, par exemple, l'affaire Cambridge Analytica de Facebook. Donc vraiment, si ça peut vous intéresser, je vous conseille vraiment d'aller voir du côté de ce livre. C'est un livre qui a été écrit par un journaliste du Wall Street Journal, qui s'appelle John Carreyrou. Et en fait, ce journaliste, c'est pour ainsi dire, j'allais dire grâce à lui, mais c'est plutôt à cause de lui, à cause de du premier article qu'il a publié sur le Wall Street Journal. C'est ce premier article qui a pour ainsi dire déclenché la chute de Theranos. Alors après, ça a été plein d'événements en chaîne qui sont accumulés, qui a fait que cette entreprise va vraiment toucher le fond. Mais on peut dire que c'est ce journaliste qui a jeté le pavé dans la mare au départ. Donc vraiment, c'est un livre qui est extrêmement, extrêmement bien documenté. Et si ça peut vous intéresser, si c'est une affaire auquel vous vous êtes intéressé, mais que vous n'avez pas vraiment tout suivi, je ne peux que vous conseiller le livre Bad Blood. Alors, par contre, en cherchant un peu, je ne l'ai pas trouvé sur Amazon. Alors, du moins, je n'ai pas trouvé la version physique en français du livre. La version existe en anglais. Ça, si vous lisez en anglais, vous pourrez facilement la trouver en papier sur Amazon. Mais la version physique, je l'ai pas trouvée en français. Par contre, en français, vous pouvez sans aucun problème la trouver sur Audible. Donc moi, c'est celle-là que je viens de terminer. Parce que je lis beaucoup sur Audible en ce moment. Donc, je vais vous mettre le lien dans les notes de l'épisode. Justement, le lien vers Audible, comme ça, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, ben, je vous le conseille vivement. Si je me suis plongé moi dans cette affaire, c'est pas pour rien. C'est que, alors c'est un gros rapport, mais à savoir que là, dès le 20 avril, si vous êtes abonné à Disney+, il y a une nouvelle série qui va sortir. Cette série, ça s'appelle The Dropout, et c'est tiré d'un podcast du même nom. Et qui traite aussi de cette affaire. Et c'est une série qui fait énormément, énormément de bruit en ce moment aux États-Unis. Alors aux États-Unis, elle n'a pas été diffusée sur Disney+. Elle a été diffusée sur Hulu. Mais voilà. C'est un peu pour ça, moi, que je me suis replongé dans cette affaire avant l'arrivée de la série sur Disney+, qui, je le rappelle, arrive le 20 avril. Donc c'est très très bientôt. Donc voilà, c'est un peu le deuxième sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui. Mais si ces affaires comme ça d'entreprises dans la Silicon Valley qu'ont enfin, c'est même pas entre guillemets, qui ont mal tourné, des entreprises comme WeWork, comme Theranos, je vous conseille vraiment, vraiment d'aller jeter un œil vers ce livre. Voilà, pour moi, c'est terminé pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire, tous les liens pour me joindre sont bien sûr dans les notes de l'épisode. N'hésitez pas surtout à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux. Car je le répète à chaque fois, je sais, mais vous le savez, c'est ce qui aide le plus le podcast depuis le départ. Quant à moi, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous donne bien sûr rendez-vous dès la semaine prochaine dans un prochain épisode. Ciao!